Et si on continuait dans la même veine que ce matin? Je pense qu'on est tellement habitué. On est, par exemple, ce matin, quand on m'avait dit qu'il allait faire du verglas, on aurait pu penser que, bon, on a peur, on a ceci, on a cela. En fait, compte, pourquoi j'ai pas eu peur? Parce que je connaissais le chemin. Je savais exactement où, par où, les routes qu'il fallait passer. Je voyais qu'il n'y avait rien dangereux, il y avait donc, j'y suis allé. Le Seigneur nous invite de la même façon. Et il m'a mis depuis 3 semaines quelque chose à cœur, quelque chose qu'on connaît tous, qu'on connaît d'une façon pleine et entière, et que parfois on a du mal à suivre. Et on reste chez nous, on fait demi-tour, on s'assoit. Voilà ce qu'a dit Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien sûr, ça c'est mon titre. Parce qu'après, en Jean 14, 6, il a dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. À cet instant précis, en fin de compte, Jésus donnait à ses disciples une espérance céleste, quelque chose de nouveau. Les Juifs étaient embringués dans la loi, ils s'en sortaient pas, et le Seigneur commence à leur donner un autre message. Venez, passez par moi. Et en fin de compte, il leur donnait une espérance magnifique. On est tous d'accord, Alain l'a dit ce matin, le monde est en train de... Il tombe dans tous les sens. Les paroles eschatologiques sont en train de s'accomplir, tout doucement, mais elles s'accomplissent. Quand on voit les grands incendies, avant c'était 150 mètres carrés, maintenant on parle de milliers de mètres carrés. Les hommes sont complètement impuissants. Quand on voit la bêtise humaine ou deux guerres avec énormément de morts, ça n'a pas suffi, ben l'homme continue à s'écharper. Alors maintenant on parle de 250 000 morts russes, autant en face. Et ce matin j'avais vraiment à cœur de... Le Seigneur m'a mis à cœur, mais j'ai construit ce monde, je ne l'ai pas construit pour ça. Je ne l'ai absolument pas construit pour ça. Et nos vies ce matin, comment elles sont par rapport à ce que Dieu a prévu pour nous? Comment elles sont? Jésus indiquait un chemin qu'il fallait prendre. Et le chemin qu'il indiquait, c'était la nouvelle relation. Il devenait la nouvelle relation pour atteindre le Père. Et pour nous, dans nos cœurs, ça doit être la même chose ce matin. Jésus-Christ est ce passage obligatoire pour aller au Père. Et ce qu'il y a derrière, c'est qu'il est en train de dire que celui qui suivrait ce chemin, leur destinée était une vie éternelle. Parce que Jésus est le chemin de la réconciliation. C'est-à-dire que quand on emprunte le chemin de Jésus-Christ, c'est pas seulement quelque chose de magnifique, mais on passe chacun par une vie nouvelle. Pourquoi ? Parce que quand on commence à entrer dans le chemin, on tombe dans la vérité. Et cette vérité nous donne la vie. Et le Seigneur m'a donné quelque chose de bizarre. Il m'a donné trois façons de voir les choses, le chemin, la vérité et la vie. Depuis l'Ancien Testament, c'est trois situations complètement différentes. Et vous remarquerez que dans les trois situations, ce sont des gens qui connaissent parfaitement Dieu. Donc ça ne s'adresse pas aux gens du dehors, cette prédication. Ça s'adresse à chacun d'entre nous. Le message que Jésus a donné à Thomas, bien sûr, parce qu'il s'adresse à Thomas. Thomas, il dit, mais attends, tu dis de nous suivre, mais on n'en connaît pas le chemin. Et à ce moment-là, Jésus dit, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce qui va suivre, ça représente, en fin de compte, différents aspects de chrétiens. Et je trouve ça triste, vraiment triste. Alors le premier, c'est le chemin avec la voie de Caïn, le choix de Caïn. Genèse, chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » En fin de compte, dans l'histoire de Caïn et Abel, la postérité de la femme affrontit la postérité du serpent. En Genèse 3, 15, après la chute de l'homme, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu était en train d'annoncer un conflit, à partir de cette chute, un conflit permanent entre les forces sataniques et l'humanité. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant précis, le malin emmènera le plus de monde possible avec lui. Comme je l'ai dit une fois, dans une prédication, c'est qu'au départ, l'enfer n'avait jamais été destiné aux hommes. L'enfer était destiné à Satan et à ses démons. Mais aujourd'hui, l'enfer est destiné même à ceux qui suivront Satan. C'est-à-dire qu'ils ne passeront pas par ce chemin, la vérité et la vie. Donc la postérité de la femme est d'abord celle de Caïn, puis toute l'humanité, et enfin Christ et tous ceux qui sont unis à lui, c'est-à-dire à part. C'est important déjà de comprendre. La postérité du serpent, ça inclut tous les démons, toutes les forces sataniques, tous ceux qui sont au service du démon et du royaume des ténèbres, dont Satan et leur père. Et c'est un reproche qui avait été fait aux pharisiens. Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Alors Satan, qu'est-ce qu'il va faire ? D'entrée, il va rendre l'humanité infirme. C'est-à-dire qu'il va sans arrêt l'attaquer, et beaucoup vont tomber dans le péché, et c'est « tu lui blesseras le talon ». Mais la postérité de Jésus-Christ, vous savez ce que j'ai dit, Jésus-Christ et les siens, c'est-à-dire ceux qui vont le suivre, va porter un coup fatal à la postérité satanique. Celle-ci t'écrasera la tête. Voilà ce que ça veut dire. La nature rebelle de l'humanité, en fin de compte, elle s'est révélée quand ? Au moment de l'acte de Caïn. En fin de compte, Caïn était l'exemple d'un homme religieux. Parfaitement religieux. Non régénéré. Il croit en Dieu. Et il croit en certaines lois. Mais selon sa propre conception. Moi-même, je suis passé par là. Où j'avais une vision de Dieu qui était complètement fausse. Complètement fausse. Et qui nous emmène sur des travers. Et qui nous emmène autre part que sur le chemin. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte ? Le sacrifice de Caïn, comme tout religieux, était issu de quoi ? De ce que lui produisait. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'en aucun cas, il a donné de sa personne. Il produisait des légumes, il a donné des légumes à Dieu. Et j'espère que Dieu sera content de ce que je lui ai offert. Mais ça, c'est l'état des hommes religieux. Ça, c'est l'état des gens qui, parce qu'ils sont dans une église, parce qu'ils prient, parce qu'ils lisent la Bible, mais je suis quelqu'un de bien, je suis sauvé. À votre avis, pourquoi Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dit ça à Thomas, qui est un de ses disciples. Il suivait Jésus. Je ne vois pas l'intérêt de lui dire ça. Mais il suivait Jésus de façon religieuse. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fin de compte? C'est que Caïn fait dormir le péché à sa porte. En Genèse 4, 7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et tu agis. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Il a fait coucher le péché à sa porte. Il a refusé de se laisser persuader par Dieu. Vous savez, des fois, on entend des prédications, on sait que c'est pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Ça ne me concerne pas. Je ne suis pas concerné. Pourtant, il y a cette petite voix qui dit « Mais as-tu entendu ce que je t'ai dit? Est-ce que tu as entendu, vraiment entendu ?» Et on n'écoute pas. Caïn n'a absolument pas écouté l'avertissement de Dieu. En 1 Jean 3,12, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et pourtant, il connaissait Dieu. Ses œuvres étaient mauvaises. Il n'avait aucun bon fruit. Et que celle de son frère était juste. Alors ici, Jean, avec ce verset, il va toucher un point sensible. Et il est en train de toucher un point sensible. Caïn tua son frère Abel à cause de sa justice supérieure. C'est-à-dire de ce qu'il était par rapport à Dieu. Et pourquoi Jean touche à un air sensible? Parce que parfois l'animosité ou la haine par rapport à un frère ou à un autre chrétien, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne absolument pas. Moi, je suis pas concerné par ça. Donc, je peux vous en parler. Et très souvent suscité par un sentiment de culpabilité à propos de notre propre vie. C'est-à-dire que on est en train de reprocher à Dieu il fait de belles choses avec notre frère, notre sœur et tout, et qu'il ne les fait pas avec nous. Et ce qu'on ne voit pas souvent, c'est que s'il ne les fait pas avec nous, c'est qu'on a un sérieux problème avec notre vie. Et on a beau lui demander ce qu'on veut, parce que Caïn, il a discuté, hein, mais il était tellement borné. Dieu n'a rien pu faire avec lui. Et on a beaucoup de cas dans les églises comme ça, où les gens sont jaloux que un tel, ils réussissent, et puis pas nous. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ben, la critique, l'amertume, le jugement, la rancune. On est exactement dans la même situation que Caïn. On est à côté du chemin. On est dans l'église, mais à côté du chemin. Caïn connaissait l'Éternel. Il avait été éduqué comme cela. Mais il connaissait l'Éternel d'une façon superficielle. Et il avait hâte de détruire son frère. Et c'est souvent malheureusement la solution qui est adoptée par les hommes qui vivent sans Dieu. C'est-à-dire que lui, j'en veux plus. Lui, il faut. J'irai pas aller jusqu'au meurtre, mais je veux plus le voir. Il m'insupporte. Sa présence m'insupporte. Et Caïn est allé jusqu'au meurtre par rapport à son frère. Il croyait régler le problème en tuant son frère. Caïn aurait pu maîtriser le péché. Il suffisait simplement qu'il écoute Dieu. Mais dans la lutte entre le bien et le mal, quiconque est mu par la convoitise et l'agressivité est une proie pour Satan. C'est-à-dire que dès qu'on convoite quelque chose, dès qu'on est agressif, ne vous inquiétez pas que le malin s'occupe de nous, il est très content. Et on ne voit même plus, on est dans le brouillard, et on ne voit même plus l'entrée du chemin. Absolument plus. Parce qu'on voit cette situation. Que cette situation. Et cette situation, on a beau dire aux autres, voilà, j'ai acheté. Il n'y a que mon cas qui est grave. Votre cas, c'est pas grave. Il n'y a que mon cas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et même quand Dieu nous a dit, nous dit, mais est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit ce matin? On est incapable de dire au Seigneur, oui, j'ai entendu. Et je vais faire ce que tu m'as demandé. Parce qu'on ne voit que ce problème. En fin de compte, un religieux, il est comme Caïn. Il aime Dieu. Il agit même selon les préceptes de la loi. Il peut très bien même suivre les commandements. Il a un seul petit problème, le même que Caïn. C'est que tout est ramené à lui-même. Tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il entreprend, c'est ramené à lui-même, c'est comme Caïn avec son sacrifice. Voilà. J'espère que tu seras content avec les légumes que je t'ai donnés, qui sont le fruit de la terre, et pas ce qui vient de moi. Parce que la chose que Dieu aime, c'est qu'on offre son corps en sacrifice. C'est ce qu'il aurait dû faire, Caïn. Est-ce que ce matin, on a offert notre corps en sacrifice ? Offrir son corps en sacrifice, c'est être, comme j'ai connu, sur une petite balustrade d'un mètre. Vous voyez ? Jusque-là, ça va, hein ? Il y a 400 mètres de vide. Et vous avez juste un petit poteau devant vous. Et il y a quelqu'un qui vous dit, ben maintenant tu sautes. Il y a juste un mètre, hein ? Mais il y a 400 mètres de vide. Il y a juste ce poteau qu'il faut saisir. Est-ce que je vais sauter? C'est ce que Dieu nous demande dans notre vie. Parce que emprunter le chemin, c'est un saut dans le vide. C'est un véritable saut dans le vide. On abandonne tout. On abandonne sa confiance. Moi, je me rappelle, le gars qui était à mes côtés, il m'a toujours dit, ne pense pas à ce que tu dois faire, fais-le. Il m'a fallu quand même 2 minutes pour comprendre ce qu'il était en train de me dire. Et c'était simplement qu'il fallait arriver, pas réfléchir, sauter. Donc je suis reparti, je suis arrivé, j'ai sauté directement. Dans la vie avec le Seigneur, c'est exactement la même chose. Quand on veut emprunter le chemin, c'est cette confiance aveugle qu'on doit avoir dans le Seigneur. On ne doit pas avoir confiance dans ce qu'on fait, on en reviendra plus tard, dans cette forme de religiosité, le fait d'exceller dans des choses de Dieu. Mais à un moment donné, le Seigneur dit, j'ai horreur de vos holocaustes, j'ai horreur de vos sacrifices. Pourquoi ? Parce qu'il voit notre cœur. Parce qu'il voit parfaitement la façon dont on se comporte. Et cette façon, c'est ce qui a entraîné Caïn au meurtre de son frère. Il a écouté sa voix. Il a écouté tout ce qu'il était. Il était quelqu'un de bien. Il travaillait. Alors beaucoup sont persuadés d'être sur le chemin. Ou ils se perçoivent d'être sur le chemin. D'autres attribuent une connaissance à la puissance de l'esprit qui est en eux. Alors que c'est tout sauf de l'esprit. Parce que la plupart du temps, ce qu'il faut faire, c'est regarder notre vie. Avec toute sincérité, avec toute honnêteté, et se dire, mais de quel esprit elle est remplie ? Est-ce que ma vie porte du fruit ce matin ? Parce que Jésus donne un chemin, c'est le sien, ça ne peut pas être un autre chemin. On ne va pas passer par la religiosité. Dieu a en horreur les religions. J'espère que vous en êtes persuadés. On connaît parfaitement ce verset. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le secret de Jésus-Christ dans notre vie, il est là. Il est ici, dans ce verset. C'est plus profond que la religion. C'est le fait que si je demeure en Christ, Christ demeure en moi. Abel avait foi en Dieu. Il avait foi en Dieu. Et Caïn, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, quand il se contentait d'accomplir une corvée, la différence, elle est là. Est-ce que être chrétien pour vous est une corvée ? Comment on va au culte ? Comment on va aux réunions d'études bibliques ? Comment on va aller à aux réunions d'intercession, est-ce que c'est une corvée? Est-ce qu'on le fait parce que on doit le faire? Ou est-ce que j'y vais vraiment par amour? La foi, en fin de compte, c'est pas de l'à peu près. C'est quelque chose qui est construit dans notre cœur. Avec l'intimité qu'on a avec Dieu. Et c'est cette foi qui nous permet de voir le chemin. Si vous n'avez pas cette foi ce matin en vous, vous ne verrez jamais le chemin. Le chemin, c'est quoi ? C'est l'amour de Jésus-Christ. Un véritable amour. C'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Le reste, c'est du blabla. C'est de la religiosité. Et en fin de compte, on n'est absolument pas sauvé par la religiosité. Christ ne nous connaît que si on a une relation intime avec lui. Que de cette façon-là. On connaît exactement ce verset. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En fin de compte, ce verset est en train d'expliquer l'union parfaite du croyant avec Jésus-Christ, mais du croyant qui a été baptisé dans le Saint-Esprit. En fin de compte, ainsi uni, le croyant partage sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et il entre de ce fait dans le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut vivre la vie chrétienne. Vous, dans une heure après le culte, vous allez peut-être avoir toujours cette inspiration de chrétien. Mais si vous n'avez pas été transformé, dans 3 heures, le naturel revient au galop. Et il y a des fois des frères et sœurs qui sont surpris de vous voir ou de me voir. S'ils me voyaient dans un état pas possible, ils me disaient, mais attends, t'es pas le même quand t'es à l'église et quand on te voit dehors. C'est ça la religiosité. C'est qu'il n'y a aucune continuité entre le moment où on est dans l'église et le moment où on est dehors. Et pourtant, la lumière de Jésus-Christ dans notre vie est la même. Elle est constante. Il est impératif de vivre une vie nouvelle avec cette foi en Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est la vérité avec l'erreur de Balaam. On connaît tous Balaam. Il y avait une vision un peu bizarre des actions de Dieu. En fin de compte, c'est la vérité de Balaam est basée sur sa voix, sur son égarement et sur sa doctrine, ce qu'il voulait faire en fin de compte. Nombre 22:5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler, de lui dire « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. » C'est ça qui n'a pas plu à Balaam. Balaam, en fin de compte, il était le type de prophète qui était complètement corrompu et soucieux de tirer avantage de tout ce qu'il faisait, de tous ses dons. Dieu l'avait béni. Ah ben, je vais retirer de l'argent, tiens, impeccable. Allez, 50 euros la guérison. Mais c'est ça, Balaam, c'était ça, sa vie. Et en fin de compte, c'est ce que l'Écriture nomme la voie de Balaam. En 2 Pierre, chapitre 2, verset 15, « Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor. Il aima le salaire de l'iniquité, le fruit de l'iniquité. » C'est grave quand même. En fin de compte, Balaam était comme un animal, exactement pareil. Il avait un instinct d'animal. Il réfléchit absolument pas. Et il a été repris par qui? Un âne. C'est un âne qui lui a montré l'ange qui était avec l'épée. En fin de compte, il considérait que la morale inhérente à l'homme. C'est-à-dire que pour lui, Dieu était... Non, il n'y avait que le fonctionnement de l'homme qui était normal pour lui. C'est ce qu'on appelle l'égarement de Balaam. Mais il ignorait une chose. C'est que la morale, Dieu avait une morale absolue sur l'expiation substitutive, et on la connaît aujourd'hui, elle est en Jésus-Christ, par laquelle Dieu peut demeurer juste tout en justifiant les pécheurs qui croient. Mais vous savez qu'il y a des gens qui n'y croient pas en ça. Et moi je prends ce verset de Paul comme une pointe d'humour. Romains 3, 5 à 7. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle ici à la manière des hommes. Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Si le manque de vérité de quelqu'un, c'est-à-dire le péché de quelqu'un, fait éclater la vérité de Dieu. Et j'arrive pas à comprendre comment Dieu peut juger quelqu'un. Vous imaginez un chrétien qui fait les pires péchés, mais qui amène en fin de compte quelqu'un qui trouve par ce moyen d'amener quelqu'un à Jésus-Christ. La voie d'adultère, la voie de tout ce que vous voulez. Mais je comprends pas pourquoi Dieu me condamne. Ça vous semble pas bizarre ce que je vous dis? Ben c'est la réaction des personnes qui sont non sauvées, malheureusement. C'est la réaction des personnes qui sont non sauvées. Ça revient à dire qu'en fin de compte, ben on peut faire le mal tant que ce mal amène des choses à bien. C'est incroyable, hein? Vous pouvez faire n'importe quel péché tant que les choses tournent en faveur de Dieu. Mon Dieu. Est-ce que vous y croyez? Et pourtant, c'est ce que Paul est en train d'expliquer dans son verset. C'est exactement ce qu'il est en train de dire aux Romains. Il leur dit, mais attendez, vous n'allez pas bien là. Il n'y a rien qui justifie le péché. En fin de compte, il leur dit, mais la condamnation de ces personnes est totalement juste. Et dire que Dieu est injuste parce qu'il condamne ces choses, en fin de compte, on est en train de blasphémer contre la nature même de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas être corrompu par le péché. Il ne peut pas entrer en relation ou entrer là où il y a le péché. Parce qu'il faut faire attention, ça veut dire qu'on est en train d'expliquer que Dieu comprend le péché. Est-ce qu'à votre avis, Dieu comprend le péché? S'il comprenait, il ne le condamnerait pas. Dieu ne comprend pas le péché, mais il le pardonne. Et la différence, elle est là. La vérité, c'est que Dieu pardonne le péché en Jésus-Christ. La différence, elle est là. Ne dites jamais à quelqu'un, t'inquiète pas, Dieu comprend ton péché. C'est le plus grand blasphème que vous pouvez donner et dire à quelqu'un. Vous dites à quelqu'un, Dieu va pardonner ton péché. Mets-toi devant lui, dis-lui ton péché, il te pardonnera ton péché. En fin de compte, les personnes qui remettent les condamnations de Dieu en cause, c'est parce qu'elles sont elles-mêmes déjà condamnées. C'est malheureux. Alors la doctrine de Balaam, elle se réfère en fin de compte, et là c'est pervers. Parce que Balaam voulait que le peuple d'Israël soit perdu. Il ne trouvait pas normal que, en fin de compte, Dieu ne condamne pas un peuple qui désobéissait. Alors il a donné à Balak un conseil pour corrompre le peuple, pour qu'il soit maudit par Dieu. Il a incité à s'unir par un mariage aux Moabites et à mépriser ainsi l'ordre de Dieu qui leur avait demandé de ne pas s'unir avec un peuple étranger. En fin de compte, il demandait tout simplement d'abandonner sa condition de pèlerin. En Nombre 25, versets 1 et 2, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent les peuples au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Donc le peuple d'Israël a bien obéi à l'Éternel. Il a suivi la doctrine de Balaam. Vous savez qu'on doit faire très attention, extrêmement attention dans nos églises maintenant, parce qu'il y a plein de doctrines qui vont venir, qui vont nous emmener en dehors de la vérité de Jésus-Christ. Ça va être sournois, mais elles vont arriver et très vite. Et si on tient aujourd'hui droit, debout, à Hasbrouck, il ne faut jamais s'en vanter. Parce que demain, on peut tomber. Il faut toujours faire confiance à la grâce de Dieu. Il faut toujours orienter notre cœur sur le chemin, la vérité et la vie. En fin de compte, ce qu'on commet à ce moment-là, c'est un adultère spirituel. En Jacques, chapitre 4, verset 4, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et ça va très vite. Il y a beaucoup d'églises qui font entrer sous couvert d'évangélisation les choses du monde. Et ça perd les églises. Les églises sont totalement perdues. Parce que c'est plus Dieu qui dirige l'église, dans ce cas-là, à faire, mais c'est le système du monde. Alors, si tu es sorti de la vérité ce matin, peut-être que tu es perdu. Mais Christ est la vérité. Et il ne veut surtout pas que nous soyons égarés. Le troisième point, qui est le dernier, la vie au travers de la mort de Corée. Vous savez ce que c'est, la mort de Corée. Donc là, je vais dans Jude. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ils se sont révoltés, en fin de compte, c'est complètement idiot. Parce que Corée faisait partie des Lévites. Et ils étaient au plus près de Dieu. Dans tout ce qui était sacerdoce. Ben, ça ne leur suffisait pas, ils voulaient beaucoup plus. Et ils se sont révoltés contre Moïse et Aaron. Aaron, il est tombé la tête sur le sol quand il a entendu ça. En fin de compte, on pourrait appeler ce troisième point, c'est marcher dans l'erreur. Et on perd la vie en marchant dans l'erreur. Ici, ce verset de Jude s'adresse aux apostats. Les apostats, ce sont les gens qui renie dit ouvertement la doctrine de Jésus-Christ, par exemple, la christologie, une religion ou une croyance. En fin de compte, Corée refusait de reconnaître que l'Éternel lui avait délégué son autorité pour travailler dans le temple, pour travailler au sacerdoce. Il voulait beaucoup plus. Parce que tu étais à la place dans l'église. C'est ça. Quelle est ta place dans l'église? Oui, mais tu m'as donné ça, Seigneur, mais ça ne me suffit pas. Je veux encore plus. Et Corée est tombé. Et si vous voulez voir l'histoire, vous lisez Nombre 16. Et sa rébellion était contre Dieu lui-même, ce qui était incroyable. Il n'admettait pas les choix de Dieu pour lui. Mais il y en a combien comme ça? Et ici, dans Jude, il s'adresse à des gens, des dirigeants d'église, qui se sont rebellés contre leur autorité de Dieu pour leur église. Et ce qui est incroyable, c'est que Jude dit ils vont être détruits subitement. Et la destruction, il le dit d'une façon, en fin de compte, il en parle au passé comme si c'était déjà fait. Ils se sont perdus. Combien d'entre nous se sont perdus pour des futilités? Pour des imbécilités? On perd le chemin, on perd la vérité, mais on perd la vie éternelle. Et après, on s'étonne qu'on doit passer par le feu. Si on se détourne des voies de Dieu que Dieu a tracées pour nous parce que l'on refuse les décisions qu'il a prises pour notre vie, refusant même son autorité sur notre vie, il ne faut pas s'attendre à autre chose que la mort. Alors que Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'y a qu'une chose qui peut sauver la personne dans cet état, c'est une repentance profonde. Et ce n'est pas « Seigneur, j'ai encore péché ». Non, Seigneur, je te donne cette abomination et je m'en vais de ça. Je ne veux plus y remettre les pieds. On arrive au bout de la prédication. vous avez tous compris que Jésus s'adresse à Thomas, parce que Thomas n'a toujours pas compris. Et même quand il sera crucifié, il ne va toujours pas comprendre, parce qu'il faudrait qu'il mette ses doigts dans les trous des clous. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cette déclaration est absolue et exclusive. Il n'y en a qu'une seule comme ça. Il n'y a qu'un seul moyen d'aller au Père. Il est là. Jésus est le chemin. Ce n'est pas un sens unique. On peut faire demi-tour. On peut tomber dans le chemin et faire demi-tour. Il y a beaucoup de gens qui étaient chrétiens et qui s'en sont détournés, qui sont partis et qui malheureusement vont brûler en enfer. Jésus-Christ est sorti du Père pour que le Fils révèle la gloire de Dieu au travers de ce qu'il va faire. Jésus-Christ est un homme parfait et parfaitement Dieu. Il est le seul chemin qui mène au Père. Sans lui, l'accès au ciel est barré. Il n'y a aucun autre moyen d'aller voir Dieu. Aucun autre moyen. Jésus est la vérité. La vérité n'est pas un système philosophique, encore moins un ensemble de dogmes. C'est-à-dire, vous savez, des trucs qu'on lit, qu'il faut apprendre, qu'il faut faire, et voilà. C'est absolument pas ça du tout. La vérité est une personne. En Jean, chapitre 1, verset 17, « Car la loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Qui nous permet d'avoir cette vie éternelle, c'est la grâce de Dieu pour nos vies. Et cette grâce de Dieu, on la connaît qu'en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il met toutes choses en lumière. Christ, dans vos vies, va mettre toutes choses en lumière comme Dieu les voit. C'est-à-dire, il voit au travers de vous. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand Dieu vous voit, il doit voir son Fils Jésus-Christ et rien d'autre. La loi, qui était pourtant sainte, ne pouvait être qu'une vérité partielle. Elle montrait à l'homme quelles étaient les exigences de Dieu pour sa vie. En Romains 7, 7, que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoites pas ». Qu'on voitra point. Dans mon métier de policier, j'ai toujours été surpris. C'est quand vous mettez une route barrée, vous avez une personne qui arrive en voiture, elle est barrée. Non, non, vous pouvez y aller. C'est comique. Je suis d'accord avec vous. La personne dit route barrée. On ne peut pas passer. Allez-y. Quand on pose des interdits aux hommes, on peut être sûr d'une chose, c'est que ces interdits seront bafoués. Ça, vous pouvez être sûr. La loi mettait des interdits aux hommes. Et Paul en prend un exemple, la convoitise. En fait, quand l'interdit de convoiter aux hommes l'amène à convoiter encore plus. C'est incroyable, hein ? En elle-même, la loi est sainte et spirituelle. Elle n'est pas péché, mais elle excite le péché. Ce n'est pas la loi qui excite le péché, c'est la nature de l'homme. En fait, quand on reconnaît que c'est péché, par la loi. Je vais vous donner un exemple. Vous arrivez à un feu rouge, on l'a vu ce matin, je crois d'ailleurs. Vous arrivez à un feu rouge, vous passez. Excellent. Mais vous savez que c'est grave. Pourquoi ? Parce que dans votre tête, il y a le code de la route que vous avez dû apprendre pour passer le permis. Vous savez que c'est grave et dangereux. Mais pourquoi vous passez le feu rouge alors ? Vous voyez ? Vous connaissez la loi et vous franchissez quand même des interdits. Enfin, quand je dis vous, je me comprends. Mais vous avez des gens qui franchissent les interdits. Quand ils se font choper, Ben, vous avez tendé toutes les excuses possibles et imaginables. On rit, mais nous, chrétiens, avec Dieu, on fait exactement la même chose. Quand on pêche, on trouve toutes les excuses possibles et imaginables. En fin de compte, là, si on sait que... Si on sait qu'on a péché, c'est parce que la loi, aujourd'hui, est inscrite où ? Sur notre cœur. La différence, elle est là. Et ce qui est que lorsqu'on est dans cette vérité, on doit être amené à ne plus pécher. Parce que la loi est inscrite dans notre cœur. Bien sûr, on peut chuter. Et c'est là où la parole est magnifique, parce qu'elle a dit qu'on a un avocat auprès du Père. Le dernier point, c'est Jésus est la vie. Il est la source de vie, parce qu'il est le seul capable de nous délivrer de la mort. Et quand je parle de la mort, c'est de cette mort spirituelle. C'est-à-dire que même si l'on meurt physiquement, notre âme continue à vivre. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. C'est parce que pour l'instant, on ne le vit pas dans l'instant. Mais lorsqu'on va se retrouver au ciel, on va comprendre ce que ça veut dire. Le fait d'avoir emprunté le chemin, la vérité, la vie, et d'être en vie, même mort physiquement. Vous avez des gens qui vont continuer à être morts, et qui vont continuer à mourir à l'éternité. J'en ai parlé quand j'ai parlé de l'enfer, ils vont être conscients de tout. Du passé, du présent, la seule chose qu'ils ne vont pas être conscients, c'est de l'avenir. Parce que l'avenir, ils vont être toujours en train de le vivre. C'est un verset magnifique, Jean 3, 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » C'est pas « Ah ben moi je crois en Jésus-Christ, hein. » Non, ça serait trop facile. Non, c'est croire, c'est oui, j'y crois. Et je vais tout faire pour ne pas ternir l'image de Jésus-Christ dans ma vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si nous acceptons par la foi la déclaration de Jésus, on est obligé de reconnaître la dépravation de l'homme. Et quand on s'en approche, c'est là où on doit se dire « Moi, je suis porteur d'une robe blanche. Je ne veux absolument pas la salir. Je m'écarte. Je dégage. » L'homme, en fin de compte, sans Dieu, marche sans but. Ne connaît rien de ce qui est vrai et ne possède aucune vie. L'homme sans Dieu survit. Il ne vit pas. Il survit. En fin de compte, Dieu ne montre pas seulement le chemin pour aller au Père, il est lui-même le chemin. Le croyant n'est pas un vagabond qui erre au hasard sur la terre. Il est quoi ? Un pèlerin pour le ciel. En fin de compte, il chemine, il apporte la lumière qui lui a été donnée. Et quand il marche pour le ciel. Tout ce qu'il construit, c'est pour le ciel. Pour marcher dans ce chemin, le Seigneur est la vérité, afin que nous ne nous égarions pas dans tout ce que le malin va mettre en œuvre, même au milieu de nos églises. Je vous rassure, si vous lisez tout ce qui est eschatologique, les premières choses vont arriver, c'est au milieu de nos églises. C'est pas par les gens du dehors, ils sont déjà morts. Il nous communique en fin de compte la force pour marcher dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Et la puissance pour vivre cette vie divine. Le croyant, en fin de compte, celui qui croit en Christ, a pour besoin que Christ lui-même. Ce matin, on peut être troublé. On peut être troublé par différentes choses. On peut être perdu. On peut croire avoir perdu le chemin. On peut croire avoir perdu sa foi. peut-être avoir été emmené et s'être égaré dans des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, se sentir complètement découragé, se sentir mort devant Dieu. En fait, compte, moi je te dis ce matin que Jésus, le chemin, la vérité et la vie, répond à toutes tes questions. Est-ce que tu es prêt ce matin à accepter ? Tu es peut-être parti depuis quelques semaines, tu es parti depuis quelques années de cette vie qu'il t'avait donnée. Est-ce que tu es prêt à faire quelque chose de nouveau ? Prendre cette résolution de dire aujourd'hui. Vous savez, comme Michael n'a pas prêché la semaine dernière, les bons vœux. Mes bons vœux, c'est oui, Seigneur, aujourd'hui je veux emprunter ton chemin. Je ne veux plus emprunter le chemin du malin. Et vous verrez des choses magnifiques qui vont se passer, des miracles. Amen. Merci Seigneur pour eux, pour qui tu es, Jésus-Christ, notre Sauveur, Jésus-Christ, notre Rédempteur, Jésus-Christ, notre Dieu. Merci parce que ce matin tu offres encore un chemin et tu tends la main encore ce matin. Seigneur, je suis content parce que je sais que tu n'as pas cette facilité de juger comme les hommes jugent ou sont trop rapides à juger. Parce que tu aimes. Tu aimes au-delà de toutes nos espérances. Et Seigneur, si tu ne nous aimais pas, nous serions morts aujourd'hui. Seigneur, tu nous as donné ta vie. Tu nous as donné ta vie pour que ta vie vive en nous, par ta présence. C'est pas ce que nous sommes, c'est pas ce que nous faisons qui est important. C'est notre foi en toi qui est importante. Le fait que quoi qu'il arrive, je me jette avec confiance. Alors ce matin, Seigneur, que nous puissions nous jeter avec confiance sur le chemin, la vérité et la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.